suis d'abord un fils de la terre et mon titre de gloire, c'est paysan à la Roussette. C'est la ferme de mes parents, c'est la mienne et c'est devenu celle de mon fils. Ben, l'agriculture, ça se mesure en pas de temps de 30 ans, c'est-à-dire de génération en génération.
Cultivons-nous d'abord une chaîne de télé, sorte de vaste bibliothèque de reportages à piocher pour s'intéresser en images au monde paysan. Cultivons-nous se décline aujourd'hui en une sorte de grosse revue, voire même un joli livre à la couverture souple et aux illustrations soignées. L'idée, mettre des mots sur des vies, sur des passions, sur des pratiques, sur des drames aussi. L'agriculture française, de la terre à l'assiette, à hauteur de femmes et d'hommes, plongés dans un monde aussi vivant, pluriel et inventif, qu'il est mal médiatisé. Question sur les poncifs qui collent à sa représentation et sur les enjeux idéologiques qui les sous-tendent. Car ne nous y trompons pas, nos champs sont devenus des champs de bataille politiques et scientifiques. Alors quel rôle jouent les médias dans ces combats ?
L'instant M. Sonia de Villers. Sur France Inter.
Et je précise qu'aujourd'hui s'ouvrent les assises de l'agriculture à Nantes. Bonjour Édouard Bergeon.
Bonjour.
Alors votre nom aujourd'hui est devenu célèbre en France. 2 millions d'entrées et une nomination pour un meilleur film au César. Ce film c'était avec Guillaume Canet, il s'appelait Au nom de la terre et c'était un hommage à votre propre père. Donc aujourd'hui quand on dit Édouard Bergeon, eh ben les projets s'ouvrent. C'est vrai que c'est pas mal.
Ouais.
Voilà.
Je suis donc très ému là parce que je viens d'entendre l'agriculteur qu'on a entendu. Oui. C'est Michel Taïssédou, oui. Il est éleveur dans le Cantal. Cet entretien qu'on a entendu, je l'ai fait il y a un mois. Et il a l'âge de mon papa, Michel Taïssédou, et ils avaient les mêmes visions de l'agriculture, de la modernisation, de l'humanité en fait, ouais. Et de l'entendre sa voix. C'est un peu mon père agricole.
C'est
et
ça.
Je suis assez touché, je suis très touché de, voilà, de l'entendre.
Votre père que vous n'avez plus, hein, c'est ce que raconte le film. Votre père.
Ouais, mais il est avec moi là, et c'est pour ça que je suis là avec vous. En fait. C'est pour ça que je parle d'agriculture.
Mais oui, et que vous ne lâchez pas, et que vous ne lâchez rien.
Je peux pas en fait.
Alors on va dire un mot. Bah en fait, on va le dire tout de suite parce que c'est la fin du livre. Votre maman a reçu le mérite agricole.
On appelle ça le poireau.
C'est quoi le poireau ?
Ben, le poireau, c'est le mérite agricole. Et en fait, c'était pendant le premier confinement et ouais. Elle n'a pas pu avoir de cérémonie. Et comme c'est un livre où je raconte beaucoup de moi dans ce livre, et ben, c'était important de rendre hommage à celles et ceux qui nous nourrissent, à tous les agriculteurs et toutes les agricultrices, et à ma maman qui a pris sa retraite d'agricultrice le 31 décembre dernier, et bon, qui a beaucoup souffert, mais qui est une passionnée, hein, c'est une fille d'agriculteur. Et voilà, il y a quelques photos.
C'est ça, mais c'est pour dire aussi à quel point a fait boule de neige le succès de ce film, succès inattendu et absolument incroyable de ce film
c'est
au nom
dingue,
de la terre.
Ouais.
Alors on va dire un petit mot de cette chaîne de télévision un petit peu particulière, une sorte de Netflix du monde paysan, hein, parce que en fait c'est de la vidéo à la demande, on choisit ce qu'on regarde.
Ouais, comme une plateforme, c'est pas voilà. Très beau comme nom, mais c'est, oui, Netflix, c'est ça, des documentaires qui, sur l'agriculture, le bien manger.
Édouard Bergeon, pardon, il faut qu'on mette nos masques, j'ai oublié. La pandémie est de retour, il faut qu'on mette nos masques. Allez hop, on reprend.
Donc en fait, je relis justement le champ, l'assiette, pour ne plus réfléchir en silo, et ce sont des documentaires, je crée Cultivons-nous avec Guillaume Canet comme parrain, avec Antoine Robin, qui est un ami spécialiste des médias digitaux. On se dit à l'après Au nom de la terre, 2 millions d'entrées, 120 débats, mais partout en France, mais une grosse méconnaissance des sujets agricoles. Donc, comment y remédier ? Ben, en créant une boîte à outils pour tout le monde, mais bien sûr pour les plus jeunes. 2 millions d'entrées, seulement 115 000 à Paris. Mm-hmm. Et là, on crée Cultivons-nous TV, on a un an et demi d'existence, donc c'est .tv, ça se trouve sur le net, mais on est aussi sur la box d'Orange, on est sur Prime Video, demain peut-être sur Free. Aujourd'hui, on a grandi, mais on est à un seuil. Vous savez, quand on grandit, il faut après, pour évoluer, il faut caper. Il nous manque des moyens, on a des ambitions, on a envie de faire peut-être un magazine, peut-être une école, parce que c'est ça le sujet de l'éducation. Donc, il nous faut un nouveau partenaire financier, technique, là, pour faire grandir tout ça.
Voilà, alors en attendant, il y a le livre, cette espèce de grosse revue écrite à plusieurs mains qui paraît aux arènes. Cultivons-nous bien manger avec les paysans d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'infographies. On sent votre volonté pédagogique, on sent l'ancien journaliste. Il y a beaucoup de schémas accompagnés de vignettes très joliment dessinées. Il y a aussi beaucoup de photos. Je pense à ce reportage, Mathieu, 29 ans, Saint-Hilaire-de-la-Croix, une série.
Dans le Puy-de-Dôme.
Voilà, qui le montre au champ, à l'étage. Table, à la maison, au marché, au supermarché. C'est vraiment son quotidien, c'est son corps sec. Il n'y a pas de volonté d'enjoliver. Et puis, il y a cette dernière photo, une vache qui met bas. Et on tourne la page Et là, il y a des aquarelles naïves, jolies. Donc, il y a plein de... Comment dire, c'est aussi pluriel que l'est le monde paysan.
Alors, il y a des illustrateurs qui ont fait un formidable travail d'illustration. Ce sont toutes des œuvres originales, comme les BD, par exemple. On en parlera peut-être. Enzo, Anthony Huchette. On crée vraiment des œuvres originales. Et ce portfolio, il est magique parce que c'est le seul qu'on n'ait pas lancé puisqu'il est sur 16 ans. Pablo Chignard a fait un travail extraordinaire de suivre cet éleveur du Puy-de-Dôme. On le voit sécher, son corps séché avec la sécheresse des champs. On voit la lourdeur de l'administration, il est perdu là-dedans. On voit ses copains, on voit quand même la fraternité, la solidarité qu'il peut y avoir. On voit la vie arriver, enfin sa famille grandir, les enfants arriver, son exploitation aussi changer, aller au bio. On remet, tout est dit avec ces 30-40 photos, ces légendes. Le fossé, on le comble là, qu'on soit en ville ou qu'on ne connaisse pas l'agriculture. Voilà, on a de l'humanité, on a des émotions et on voit que cet homme, son métier, il est beau, mais en même temps, il vieillit plus vite que nous. Les aquarelles pour adoucir tout ça derrière aussi.
Oui. Je vous fais écouter l'extrait d'un podcast qui s'appelle Business of Bouffe, Claude Gruffa, fondateur de Biocoop.
Je suis arrivé dans ce monde-là par l'agriculture. Moi, je suis fils de paysan, haut savoyard. Je suis né sur une petite ferme laitière en Haute-Savoie qui, 60 ans en arrière, pratiquait encore des méthodes d'agriculture qui étaient très respectueuses des sols, de la fertilité des sols, du bien-être animal. C'est un modèle d'agriculture très familial. Ouais. Et du coup, moi, ça m'a donné toute une culture. C'est ça qui fondatrice de c'est quoi l'agriculture et c'est quoi l'alimentation, parce que de cette agriculture sur la ferme venait l'alimentation qu'on était les premiers à consommer, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui d'ailleurs. Chez les paysans, on consomme plus qu'on produit.
C'est intéressant parce que dans ce MOOC, dans ce gros livre, Édouard Bergeon, vous multipliez les portraits et les témoignages d'agriculteurs, beaucoup de jeunes agriculteurs avec des parcours.
Beaucoup de femmes.
Beaucoup de femmes, souvent atypiques, parfois très diplômées.
Dans la solution.
Voilà, qui étaient en train de bosser à Boston et qui récupèrent des
Anne-Cécile Suzanne.
Voilà, des exploitations familiales. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'histoires d'héritage. Oui, dans ce MOOC, plein d'histoires d'héritage qui font évidemment écho à la vôtre. C'est-à-dire, que faire de l'auberge, du restaurant de mes parents? Que faire de l'exploitation de mes parents? Moi, la jeune génération, qu'est-ce que je fais face à la tradition? De quoi j'hérite?
Le poids de l'héritage, faut le vivre pour le comprendre, puisque ce sont des générations et des générations. Moi, chez moi, on est agriculteur depuis tout le temps, en fait, depuis le Moyen-Âge, du côté de mon père, du côté de ma mère. Et c'est, je pense, pour ça aussi que je continue à creuser ce sillon. Et la terre, elle est amoureuse, je ne peux pas la quitter comme ça. Donc, j'ai passé mon BPREA, mon brevet de responsable d'exploitation agricole. En gros, j'ai mon bac pro agricole, mais je ne suis pas dans le tracteur. Mais je pense que je suis plus utile aujourd'hui à mettre des coups de caméra et des coups de lumière sur ces portraits-là de femmes, d'hommes qui font des choses et qui, justement, ont un enjeu incroyable. D'ici 5 à 10 ans, la moitié des exploitations agricoles en France vont disparaître, disparaître. Les chefs d'exploitation vont partir à la retraite. Donc l'enjeu, justement, c'est de créer des vocations et c'est d'expliquer que l'agriculture, elle peut être pop, elle peut être innovante, même si la transmission n'est pas simple. L'outil, le foncier, aujourd'hui, à transmettre, c'est très compliqué. Alors, il y a plein de solutions aussi, avec Terre de Liens, par exemple, des associations qui font un travail extraordinaire. Mais ouais, il y a un sujet là. Il y a un sujet, vraiment.
Il y a un sujet, et il y a un sujet qui passe par la médiatisation. Parmi les portraits, il y a quelque chose qui revient beaucoup. C'est au fond des agricultrices et des agriculteurs qui vous disent « on nous tend pas le micro ». Donc maintenant, on va le prendre.
Ils se racontent eux-mêmes.
Voilà, on se raconte nous-mêmes. Et on se raconte nous-mêmes grâce aux réseaux sociaux. Écoutez cette agricultrice qui fait vivre la vie de 15 000 poules sur Twitter, Instagram et YouTube.
Alors l'idée, là, quand on les accueille, c'est de passer sur le caillebotis et de les faire circuler. On leur demande d'être mobiles. Parce qu'une plus une poule va être mobile, plus facilement elle arrivera par exemple à remonter du gisoir vers le caillebotis, elle arrivera à se percher, elle arrivera aussi à aller circuler sur le parcours. Allez les filles! Allez les filles! Vous voyez, elles sont pas serrées les poules. Hein. Elles ont de la place.
Voilà, 15 000 poules en extérieur. Il y a un compte qui s'appelle Les Jolies Rousses, oui.
C'est pas tant que ça, 15 000. D'ici, ça peut paraître beaucoup. 15 000, c'est un bâtiment. C'est des poules qui vont en plein air. Elles sont très bien. Ça. Elles sont sur de la paille. C'est pas 200 ou 500 000. Hein. Ouais. C'est un petit élevage. Lucie, donc, qui est une des premières à m'avoir rejoint sur Cultivons-nous la télé et qui a un super papier sur elle dans le livre. Mmh. Elle raconte comment, sur Twitter et sur YouTube, elle raconte son métier, en fait. Mmh. Elle n'était pas bio. Là, elle vient de passer bio. Et vous imaginez, si je vous dis qu'elle va revenir au conventionnel, oui. Parce qu'il y a une saturation du marché bio des œufs.
Oui, elle n'a pas assez de demandes.
Non.
Pour du bio en plein
non.
air. Ouais.
C'est pas un argument de vente en fait. Mmh. Ça l'est peut-être à Paris, ouais. Mais en tout cas pour la majorité des gens non. En fait, elle va le plein air, oui. Le local, oui. Le circuit court. Les magasins fermiers marchent de mieux en mieux. Et tant mieux. D'ailleurs, c'est les agriculteurs qui se regroupent, qui donnent un peu de leur temps et qui créent des magasins fermiers. Donc, c'est beaucoup d'investissements. Elle, elle est encore obligée de réinvestir. Elle travaille.
Et alors, à travers ces réseaux sociaux, il y a une autre réalité que vous racontez pas, Édouard Bergeon. C'est qu'il y a aussi beaucoup de batailles idéologiques, de batailles politiques, de batailles scientifiques au sujet de l'agriculture. Il y a plein de comptes de paysans qui sont extrêmement actifs. Pas toujours des vrais, d'ailleurs. Parfois, il y a des faux-nés, hein, aussi. Il y a ce qu'on appelle
les
trolls, exactement. Ouais. Mais qui sont prêts à ferrailler et à ferrailler dur, parfois, sur les questions phytosanitaires.
Oui, il y a un vrai problème, on l'a dit, de faire savoir. Maintenant, ils se racontent eux-mêmes, puisqu'à un moment donné, le jugement est assez, assez difficile sur eux. Et l'agriculteur, aujourd'hui, est blessé, donc il ne réagit pas forcément très bien. Mmh. L'agriculture a sûrement loupé des sujets sur le bien-être animal, sur les phytos. Mais aujourd'hui, il y a des injonctions de la société qui sont assez dures pour le monde agricole. La demande sociétale est plus rapide que l'agriculture peut changer les choses. Il faut 10 ans, 15 ans pour changer les choses. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui, demain, tout de suite qu'il faut changer les choses. L'agriculture a dû aller trop loin, mais si vous interrogez un agriculteur ou une agricultrice, il sera, par exemple, sur les produits phytosanitaires, il ne va pas vous dire qu'il en épand par gaieté de cœur. À un moment donné, c'est une manière aussi, pour une forme d'agriculture, d'assurer un rendement et puis de gagner leur vie. Parce qu'il ne faut pas oublier que le système fait que les consommateurs veulent ou ne peuvent pas payer leur alimentation au prix qu'ils devraient la payer, en fait. Donc, oui, c'est politique. Moi, dans ce livre, je raconte le bio, le conventionnel. Moi je suis pour plus de vertu. Hein.
Ah ouais.
Je suis pour l'agriculture bio, je suis pour tout ça. Mais c'est pas si simple. Et aujourd'hui, il faut à la fois assurer notre souveraineté alimentaire. La France doit assurer sa souveraineté alimentaire. Et en même temps, l'agriculture est un modèle de... Bah c'est là qu'on doit s'appuyer sur les agriculteurs pour l'écologie, parce que moi je dis toujours que les agriculteurs sont les premiers écologistes. C'est peut-être bizarre à entendre, mais ils travaillent entre le ciel et la terre.
Ce qui est intéressant, c'est que vous faites une démarche médiatique et une démarche médiatique de réconciliation, de dialogue.
Je pense qu'on n'a pas le choix.
Parce qu'il y a d'autres démarches médiatiques qui sont l'inverse. C'est-à-dire, on met en scène les antagonistes. Je pense par exemple à Hugo Clément. C'est pas pour rien qu'il appelle sa série d'émissions sur le front.
Moi, je suis l'inverse.
C'est-à-dire, le front, c'est la guerre, c'est la bataille et c'est les antagonismes.
Ouais, mais il est à l'étranger, si vous regardez bien.
En
France, il n'est pas sur le terrain ou pas dans les fermes. Mais ça crée beaucoup de ressentiments chez les agriculteurs que d'avoir des vidéos qui peuvent être fabriquées à Paris avec des montages plus ou moins tendancieux, qui sont là pour dénoncer. Alors ça crée de l'émotion, et l'émotion on sait très bien, moi avec du cinéma j'ai créé de l'émotion, mais on parle pas de fond là. Et quand on parle pas de fond et qu'on parle que d'émotion, à un moment donné ça crée un ressentiment qui est quand même hyper difficile à encaisser.
Lui il propose des enquêtes, c'est quand même des enquêtes et c'est aussi des enquêtes
de terrain.
Je
parlais des petites vidéos,
un peu dans le monde
par
entier.
Exemple,
ouais.
Qui peuvent parler de L214.
À L214, on vous en a préparé une aussi, parce que c'est vous et vous-même, Édouard Bergeon, qui posez la question à vos invités. Que pensez-vous des méthodes de L214?
À des éleveurs, ouais.
Voilà, vous posez la question à des éleveurs, du coup je voulais vous retourner la question. Il y en a une qui a été publiée hier, elle est tournée dans l'Aube et elle met en cause la filière préférence de Herta.
Dans les cages de maternité, elles ne peuvent ni se retourner, ni s'occuper de leurs petits. De nombreux porcelets meurent dès les premiers jours. Les porcelets subissent une série de mutilations douloureuses à la chaîne de manière systématique.
Voilà, donc c'est la dernière vidéo L214. Vous posez la question à vos invités, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous pose la question parce que moi qui analyse les médias au jour le jour, c'est une stratégie médiatique bien particulière. C'est toujours l'idée de créer un choc pour réveiller les consciences.
Non, mais ces images, si elles sont là, c'est qu'elles existent, mais ça ne veut pas dire que c'est l'ensemble de l'agriculture française. Après, c'est toujours pareil, le montage, je viens de l'image aussi. C'est des images choc qui sont montées avec une voix grave, avec un ton. Et des fois, pour moi, c'est assez malhonnête. Qu'il y ait des lanceurs d'alerte qui existent, tant mieux, et il en faut. Il y a une BD sur Paul François, l'agriculteur qui a fait condamner Monsanto après une intoxication au désherbant.
Elle est formidable, la BD. Elle fait 30 pages, elle est formidable.
Elle est dingue. Et Mais heureusement que faut se remettre il y a 15 ans. Hein, quand lui lance l'alerte, on n'est pas dans les thématiques, dans les débats d'aujourd'hui. Donc heureusement qu'il y a ces gens-là. Heureusement qu'il y a ces lanceurs. Mais L214, c'est quand même de l'intrusion sur des propriétés privées. En plus, on respecte pas les normes sanitaires. Ils viennent d'être condamnés il y a deux jours, mardi, pour une intrusion dans un élevage. Moi, je pense qu'on est sur l'émotion au lieu d'être sur le fond. Les agriculteurs, ils sont là pour ouvrir leurs portes. Enfin, ils veulent. Bienvenue à la ferme, quoi. Venez voir, discutez. Et même Anne-Cécile, pour reparler d'elle, elle explique très bien. Elle fait venir des végétariens, des véganes sur son exploitation. À la fin, ils repartent avec un pot de bolognaise après avoir visité la ferme, parce qu'elle montre que ces vaches sont bien élevées, parce qu'elles vont au champ. Bien sûr, il y a le contrat social qui fait qu'au bout de 5 ans ou 10 ans, elles vont à l'abattoir. Mais après ça, s'il n'y avait plus de viande, il n'y aurait plus de ferme, il n'y aurait plus de paysage, il n'y aurait plus de paysans.
Et vous racontez mille et une initiatives extrêmement innovante. Hein, je vous dis, vous faites le portrait d'une agriculture très plurielle. Vous racontez aussi des drames, comme vous l'avez raconté au cinéma. On écoute Bernard Dehetz. L'histoire,
j'étais avec eux dans le Béarn ce week-end. Je les accompagne.
Voilà. Alors, c'est un récit très tragique. C'est une spirale qui s'est abattue sur ces éleveurs. Il y a eu un cas de tuberculose détecté juste avant le Covid et il a fallu abattre une centaine de bêtes.
L'avenir pour moi, j'ai 55 ans, retrouver des vaches aussi braves que j'avais, je sais pas, ça va être dur de repartir avec des vaches. Je me les connaissais toutes, chaque vache a son caractère, on verra. D'abord il faut surmonter ce cap, le départ de mes animaux, et après... Je vais voir, je ne sais pas.
Alors ça, c'est une série de reportages sur cultivons-nous.tv.
Une série, ouais.
Voilà. Et puis, vous en avez fait un long récit dans cette version écrite et imprimée qui sort aux arènes.
En fait, Sylvie, la femme de Bernard, lance une bouteille à la mer il y a un an et demi parce que son troupeau part à l'abattoir et elle est toute seule. Il n'y a pas d'accompagnement, trop d'administratif. Et là, je reçois ce mail et je me dis, mais non, mais je peux pas y aller. On est début juillet, je fais plein de choses. Et puis finalement, j'ai mon ventre qui me parle, ça me fait mal. Et je descends, je prends un TGV parce que les vaches vont partir à l'abattoir. Et pour le coup, l'administration leur empêche de faire des images en souvenir. Et là, à un moment donné, moi, je peux pas admettre ça. Donc, j'y vais, je filme avec mon téléphone. Et puis après, il y a un député, justement, qui s'occupe d'une mission parlementaire sur le mal-être agricole déclenchée par mon film, que je connecte avec eux, qui vient les aider. Comme quoi, le politique peut aussi faire des choses. Et puis ensuite.
Et comme quoi, le médiatique engendre le politique.
Exactement. Ouais. Et puis après, ça a fait bouger le Crédit Agricole qui voulait pas bouger. Et puis, j'y étais ce week-end et les vaches sont revenues. Alors, c'est pas les mêmes, c'est pas celle qui l'a fait naître, mais ils vont mieux, c'est pas réglé. Mais en tout cas, le médiatique, oui, le politique, on a pu accompagner une famille, on a remis de l'humain, et c'est ce qui est au centre du plan qui a été rendu la semaine dernière par le ministre de l'Agriculture que j'ai accompagné sur le mal-être et la prévention du suicide, c'est de remettre l'agriculteur et l'agricultrice au centre du jeu, quoi qu'il arrive. Et pour ça, oui, il faut à un moment donné considérer que ce sont eux et elles qui nous nourrissent. On l'a vu pendant le confinement. On s'est tous posés autour d'une table parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. On a cuisiné, on a mangé, on a retourné les boîtes, on s'est demandé d'où ça venait. Et les seuls endroits où c'était ouvert, c'était les supermarchés, les marchés. Et là, à un moment donné, on a peut-être eu conscience qu'on avait besoin de nos agriculteurs et nos agricultrices.
Voilà, des histoires de femmes et d'hommes. C'est Cultivons-nous, c'est sorti aux arènes. Bien manger avec les paysans d'aujourd'hui. Voilà, on vous a pas fait le troisième volet qui est bourré de recettes de cuisine.
Du chef du fooding de l'année, Daniel Morgan.
Absolument.
Et c'est assez extraordinaire.
Et de conseils pour bien bouffer. Merci, Edouard Bergeon.
Beaucoup.
Merci d'être venu dans l'Instant M. Bonjour, Ali Rebéi.
Bonjour, Sonette de Villers. Est-ce que vous avez eu un jour peur de parler en public?
Eh bien non, sinon je crois que je n'aurais pas vraiment choisi ce métier.
Ah, je ne sais pas, on en connaît qui ont peur de prendre la parole en public
et qui font la radio.
J'en connais quelques-uns.
J'aimerais bien savoir qui.
En tout cas, ce matin, comment bien parler en public sans peur ni reproche. Nous avons des experts avec nous qui vous aideront à mieux vous exprimer en public. Donc vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000.